for decades.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. In California, three firefighters are fighting for their lives after a massive fire overtook their station at the Los Padres National Forest overnight. They were among 14 firefighters who deployed emergency shelters as flames overtook their position. The massive Dolan fire is just one of more than 85 raging across the West Coast, with red flag warnings from San Diego to the Canadian border in Washington state. Fires this year have burned more than 2 million acres across California, even before the start of September and October, historically California's worst months for fire. Governor Gavin Newsom said Tuesday his state needs to adapt to the realities of the climate crisis.
But I quite literally have no patience for climate change deniers. It simply follows completely inconsistent, that point of view, with the reality on the ground, the facts as we are experiencing. You may not believe it intellectually, but your own eyes, your own experiences tell a different story.
The confirmed U.S. death toll from COVID-19 is approaching 190,000. This comes as new evidence shows the death rate among African Americans and Latinos rose sharply during the summer. The percentage of African Americans killed by the virus is more than twice as high as white Americans. Meanwhile, a new study estimates more than 250,000 cases of COVID-19 may be linked to a motorcycle rally that brought hundreds of thousands of people to Sturgis, South Dakota last month. This would make it the largest super-spreading event in the United States since the start of the pandemic. Most of those who attended refused to wear masks or practice social distancing. The rise in cases is estimated to have cost public health agencies over $12 billion. In Britain, the drug company AstraZeneca has paused its phase three vaccine trials after a trial participant came down with an unexplained illness. The vaccine is being developed with the University of Oxford. Globally, the death toll from COVID-19 is approaching 900,000. In Peru, the confirmed COVID-19 death toll has reached 30,000, Latin America's third highest after Brazil and Mexico. But the true toll would be more than double the official number, with over 68,000 more deaths recorded across Peru this year compared to 2019. Residents of the capital, Lima, are reporting large gatherings and lapses in social distancing measures.
People think the coronavirus is a joke. This is something they don't believe. They think it's a smokescreen. I have family members who have died because of COVID. So this is not a game. This is real.
Meanwhile, coronavirus cases are spiking in Britain again, forcing the government to reinstate a ban of most gatherings larger than six people. On Capitol Hill, Senate Majority Leader Mitch McConnell's abandoned a plan to send a new round of stimulus checks to help Americans suffering from the nation's worst economic collapse since the Great Depression. On Tuesday, McConnell unveiled a slimmed-down $500 billion economic relief package. House Democrats say at least $2.2 trillion is needed for spending. In the eastern Atlantic Ocean, Tropical Storm Renee has formed near the Cape Verde Islands, becoming the earliest R-named storm in history and keeping 2020 on pace to shatter the previous record for the Atlantic hurricane season. Sudan's declared a three-month state of emergency after record rainfall and flooding left dozens of people dead and damaged over 100,000 homes. Climate scientists say global heating is increasing rainfall during the rainy season and causing the Nile to jump its banks. In Senegal, at least six people are dead, and suburbs of the capital, Dakar, remain underwater following record-shattering rainfall over the weekend. Senegal's water minister reports more rain fell on Saturday than Senegal would usually see during its entire three-month rainy season. President Trump signed an executive order Tuesday extending a ban on oil and gas drilling in eastern parts of the Gulf of Mexico near Florida's beaches, while expanding protections to the coasts of Georgia and South Carolina. Trump's order comes despite his longstanding support for pipelines like the Dakota Access and Keystone XL, and his support for oil and gas drilling on federal lands, including Alaska's Arctic National Wildlife Refuge. Trump's order comes as Republican Senator Lindsey Graham faces a strong re-election challenge from Democrat Jamie Harrison in South Carolina, where a majority of South Carolina residents oppose offshore drilling. The Justice Department Tuesday asked to take over the defense of President Trump in a defamation lawsuit filed by author E. Jean Carroll, who accused Trump of raping her in the 90s. In a highly unusual legal move, the DOJ argues, while the alleged sexual assault occurred before Trump took office, he was president when the defamation suit was filed and could be defended by government lawyers paid by taxpayers. Carroll sued Trump last year after he denied her allegations, accused her of lying, and said he didn't know Carroll, despite a photo showing the two of them together at a party in the 1980s. In Salt Lake City, Utah, a police officer opened fire Friday on a 13-year-old autistic boy after his mother called 911 to request a crisis intervention team, reporting her son was having a mental health emergency. Lyndon Cameron remains hospitalized in serious condition with injuries to his ankles, bladder, colon, intestines and shoulder. Lyndon's mother, Golda Barton, says her son became afraid and fled police after armed officers entered his home. After a brief chase, she says she heard several gunshots. A police spokesperson said the 13-year-old was armed and threatening people. But the Salt Lake Tribune later reported no weapon was found. Golda Barton told reporters, quote, "He's a small child. Why don't you just tackle him? You are big police officers with massive amounts of resources," she said. In New York, the entire Rochester Police Department command staff, including Police Chief Laron Singletary, has resigned following a week of nonstop mass protests over the killing of Daniel Prude. Prude, an African-American man, died from asphyxiation in March after police officers handcuffed him, put a hood over his head, and pushed his face into the freezing cold ground for 2 minutes while kneeling on his back. He was naked. Protesters have accused Rochester's government of covering up the details of Prude's death, which weren't released until 5 months after he died. They're also demanding the resignation of Rochester Mayor Lovely Warren. In Greece, a massive fire swept through an overcrowded refugee camp in the Isle of Lesbos overnight, forcing thousands to flee as flames consumed their makeshift shelters. The cause of the fires was not immediately clear. There have been intense wildfires on the Isle of Lesbos and other parts of Greece, fanned by hot weather and gusty winds. Meanwhile, camp residents have been protesting dangerously overcrowded and unhygienic conditions after at least 35 people in the camp tested positive for COVID-19. The Moria camp is home to nearly 13,000 asylum seekers, more than four times its stated capacity. In Afghanistan, at least 10 people were killed and 15 others wounded Wednesday morning when a roadside bomb exploded in the capital, Kabul. The blast appeared to target the convoy of Afghan Vice President Amrullah Saleh, who escaped serious injury but sustained burns on his face and hand. The Taliban denied responsibility. The groups promised not to launch such attacks in urban areas under a partial ceasefire with the United States. The Pentagon says it'll reduce the number of U.S. troops in Iraq from 5,200 to 3,000 during the month of September. The drawdown comes 9 months after the Trump administration ignored an order by Iraq's parliament for all U.S. troops to leave Iraq following the assassination of the Iranian general Qasem Soleimani in January on President Trump's order. A new report finds at least 37 million people in eight countries have fled their homes since the start of the U.S.-led so-called global war on terror in 2001. The report by the Cost of War Project at Brown University also finds more than 800,000 people have been killed since U.S. forces began fighting in Afghanistan, Iraq, Syria, Pakistan and Yemen at a cost of $6.4 trillion to U.S. taxpayers. In Pakistan, press freedom groups are denouncing the recent killing of journalist and women's rights activist Shahina Shaheen Baloch. She was reportedly shot twice by her husband, who then dropped her off at a hospital and fled. The Coalition of Women in Journalism is demanding an investigation. The group's founder said in a statement, quote, "The state continues to do nothing about the violations women face in the country." President Trump's former personal lawyer and fixer, Michael Cohen, has released his tell-all book titled Disloyal, a memoir, describing Trump as a mob boss driven by deep-seated racism. Cohen quotes Trump as saying, quote, "Tell me one country run by a black person that isn't an S-hole, but he used the whole word. Cohen goes on to describe a racist diatribe by Trump after the death of South Africa's former president Nelson Mandela in 2013. He said Trump said, quote, Mandela effed the whole country up. Now it's an S-hole. F Mandela. He was no leader. Trump allegedly said, using the F word and the S word. Michael Cohen also writes that Trump was so consumed by his hatred of President Barack Obama that he hired a faux Obama to record a video in which Trump belittles the fake Obama and fires him like a contestant on Trump's former reality TV show, The Apprentice. Cohen spoke with NBC News Tuesday.
I believe that his hatred for Barack Obama just basically starts with the fact that he's black. And that he was the first black president in this country.
In related news, the Department of Homeland Security is facing new criticism for downplaying the threat of white supremacists. DHS recently drafted a document that stated, quote, white supremacist extremists will remain the most persistent and lethal threat in the homeland through 2021. But in newer versions of the document, the reference to white supremacists was removed and replaced with the phrase, quote, domestic violent extremists, unquote. None of the document's drafts refer to anti-fascist activists or Antifa as a threat, despite claims made by President Trump and Attorney General William Barr repeatedly. In labor news, graduate student instructors at the University of Michigan have gone on strike in part to protest the school's safety plans around COVID-19, as well as the university's ties to law enforcement agencies, including ICE, that's Immigration and Customs Enforcement. Meanwhile, University of Arizona employees have officially established a union after months of denouncing the university's reopening plan and following a series of furloughs and layoffs during the COVID-19 pandemic. The union has recruited over 200 members so far and will represent current and former U of A faculty, student workers, and staff. And thousands of professors and students in universities around the country are participating in a two-day scholar strike, protesting racial violence and police brutality. The action's being live-streamed with free lectures and panels about racial violence, policing, and community organizing. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report.
Aujourd'hui, nous faisons une mise à jour sur les médicaments associés au coronavirus. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour, fidèles auditeurs. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme pour relever les défis de la rentrée et de l'automne. Comme vous le savez, nous avons déjà parlé de la COVID-19 sous différents angles. On a abordé les complications infectieuses avec Luc Bergeron, le syndrome de détresse respiratoire avec Marc Perroux et la détresse psychologique en temps de pandémie avec Philippe Vincent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller écouter ces épisodes ou encore les autres qu'on a fait sur la COVID-19. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire le point sur les traitements de la COVID-19 parce qu'après plusieurs mois, on commence à avoir plus de recul. Donc, on va parler des principaux médicaments utilisés pour traiter le coronavirus, pour le cas où nous serions confrontés à une deuxième vague. Quelles sont les données associées à la dexamétasone, au remdesivir, à l'hydroxychloroquine, aux anticorps monoclonaux, au plasma convalescent ou au développement des vaccins? Pour relever le défi de cette mise à jour rapide dans le traitement du coronavirus, nous recevons Nathalie Châteauvert, qui est pharmacienne et coordonnatrice de la pharmacie de recherche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle est également chercheure associée à ce même centre. Elle est clinicienne en transplantation cardiaque et en néphrologie, ainsi que professeure de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi tu es impliquée dans la recherche concernant la COVID dans ton établissement.
En fait, d'abord, je coordonne, comme tu l'as dit dans la présentation, la pharmacie de recherche du département de pharmacie de l'IUCPQ. C'est l'endroit où on gère les médicaments de tous les projets de recherche qui se tiennent chez nous, dont les chercheurs sont associés à notre centre de recherche. Et on a plus d'une centaine de projets de recherche, là, excluant même ceux de l'oncologie. Et dans le cas de la COVID, évidemment, mon implication fut dans la gestion de ces projets-là, en quelque sorte, l'étude CAPCO, l'étude RIMAP-CAP, l'étude ATTAC, quelques autres. Et je suis aussi membre du comité d'éthique de la recherche à notre institut également. Donc, j'ai vu passer, analyser, contribuer là, à en fond, l'acceptabilité ou l'acceptation, je devrais dire, des différents projets là, pour qu'ils soient réalisés là, dans notre établissement et même ailleurs au Québec, puisque parfois, on est les centres, un seul centre évaluateur là, dans la province. Donc, pour certains projets, nous étions le centre évaluateur. Donc, c'est surtout, je vous dirais, à ce niveau-là là, que mon implication dans la recherche et la COVID s'est tenue. C'est sûr que comme chercheuse associée au centre de recherche, j'ai le privilège d'être impliquée aussi comme co-investigateur dans une étude pilote qui implique un immunomodulateur dans le traitement de la COVID. Alors, j'aurai le plaisir de vous en jaser peut-être un petit peu plus tard dans le balado.
Tout à fait. Rentrons dans le vif du sujet. Nos auditeurs ont hâte de faire le tour des traitements du coronavirus. Il faut quand même que je note, suite à ce que tu viens de dire, qu'on enregistre le balado le 27 août. Alors, si vous écoutez ça, notre balado le 20 septembre, qu'il y a eu des études majeures entre les deux, bien, c'est ça, on est le 27 août. Bon, Nathalie, la dexamétasone, là, c'est un médicament dont on a beaucoup parlé en juillet. Ça a suscité beaucoup d'espoir. Peux-tu nous parler un petit peu de l'étude Recovery?
En effet, c'est actuellement, la dexamétasone, c'est vraiment le seul traitement qui réduirait la mortalité. Donc, au moment où on se parle, en ce 27 août, c'est devenu un peu le standard de pratique. Actuellement, chez nous, du moins à Québec, on n'a pas beaucoup de cas. Mais pour avoir jasé avec des intensivistes et collègues autour de nous, les gens qui vont traiter ces patients-là, c'est devenu notre standard de pratique. Si on a traité un patient COVID demain matin, assurément qu'il recevra la dexamétasone. Et c'est basé sur, évidemment, les résultats de l'étude Recovery qui a été publiée là, en juillet dernier. C'est vraiment cette étude-là qui a conduit finalement à cette pratique-là qui aujourd'hui serait probablement le standard. Il y a une autre étude qui s'appelle GlucoCovid, qui est aussi répertoriée là, dans une grosse méta-analyse qui a été publiée récemment, là, le 30 juillet, dans le BMJ. Et dans cette méta-analyse-là, on faisait état de cette petite étude-là qui allait dans le même sens, dans le fond, que Recovery.
Donc, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que nous dit Recovery?
Recovery, en fait, ce que ça nous dit, peut-être juste pour mettre nos auditeurs en place là, par rapport à ce projet-là, Recovery, c'est une grosse étude de 176 sites. C'est un essai ouvert comparatif. Les chercheurs relèvent de l'Université d'Oxford en Angleterre. C'était tous des patients qui étaient COVID positifs ou suspectés, mais qui étaient hospitalisés. Puis, il y avait plusieurs bras de traitement. Donc là, on parle du bras de la Dex, qui était, les patients recevaient dexamétasone 6 mg une fois par jour, per os ou IV, pendant 10 jours ou jusqu'à ce qu'ils soient libérés de l'hôpital, jusqu'à leur congé. C'est une étude de pragmatique et adaptative, c'est-à-dire que Recovery, c'est une étude qui a été designée au tout début, au printemps, très tôt, et on s'est adapté, on a retiré des bras, on a ajouté des bras, on s'est adapté au continuum de l'évolution là, de la science que l'on avait par rapport à l'infection de la COVID. Donc, c'est vraiment une étude où on voulait récolter le plus de données possible dans le moins de temps possible. Donc, c'est une étude de la vie réelle. Donc, pragmatique, de la vie réelle, pas beaucoup de critères d'exclusion. T'es COVID ou tu l'es pas, suspecté ou pas, entre endomise dans un des bras de traitement. Le bras DEXA, qui était dans le fond le bras super intéressant, c'est vraiment celui qui, leur issue mesurée primaire, c'était la mortalité à 28 jours. Et leur issue secondaire, c'est des composés là, de ventilation et de mortalité aussi. Donc, 6 000 patients, dont 2 100, ont reçu le traitement de dexamétasone. Donc, il y avait un patient sur deux là, qui recevait un pour deux, en fait, qui recevait la dex par rapport au traitement usuel. Il y avait quand même 36 % de femmes, donc ce n'est pas inintéressant. Et on a diminué la mortalité de 17 % toutes classes de patients confondues. Ça fait que ça, c'est quand même assez impressionnant. Ce qui est ressorti beaucoup dans les journaux, on parlait d'une diminution du tiers de la mortalité. Ça, c'était chez les patients qui étaient ventilés mécaniquement, qui avaient un support respiratoire. On parle d'un NNT de 8 patients. On sait que c'est un droit qui ne coûte pas très cher. Donc, ça commence à être des données pas mal intéressantes. Diminution de 18 % des patients qui avaient une VNI, donc une ventilation non-invasive, avec un NNT de 25. Il y avait un petit signal d'augmentation de la mortalité chez les patients qui étaient sans oxygénothérapie, mais hospitalisés, mais ce n'était pas significatif. Donc, c'est quand même une étude, comme je vous dis, intéressante. Aujourd'hui, c'est quand même des données préliminaires qui ont été publiées dans le New England le 17 juillet dernier, mais quand même très intéressantes. Bien, c'est pour le moment, en tout cas, à mon sens, à moi et pour avoir consulté quelques collègues, là, notre standard de traitement pour le moment.
Fait que pratico-pratique, là, la dexamétasone, on la donne à qui maintenant suite à ces études-là? Juste à nos patients hospitalisés?
On la donnerait uniquement à nos patients hospitalisés COVID positifs, assurément. Aucune donnée chez les patients externes. Puis là, bien, c'est sûr qu'à partir du moment où ils sont hospitalisés, ceux qui en bénéficiaient le plus, c'est ceux qui requéraient de l'oxygène. Fait que sur un patient hospitalisé sans oxygène, bien, le signal, c'est qu'il y avait peut-être même une petite augmentation de la mortalité, c'était pas significatif. Moi, basé là-dessus, ce patient-là, probablement qu'il n'y en aurait pas. T'sais, on va attendre, peut-être qu'on aura d'autres choses. Donc, on aurait les patients qui ont besoin d'oxygène, oxygéno-traités, qui assurément auraient de la dex, per os ou IV là, pendant une dizaine de jours jusqu'au congé.
Parfait. Parlant des antiviraux, t'sais, on le sait, le Santé Canada vient d'autoriser l'utilisation du remdesivir dans le traitement du coronavirus. Est-ce que c'est le nouveau médicament miracle là, qui ne serait pas de la dex?
En fait, le remdesivir, c'est un médicament super intéressant, effectivement. On a eu des études aussi intéressantes. On n'a rien eu sur la mortalité, par contre. L'Adex reste le médicament qui sauve des vies. Le remdesivir demeure un médicament avec lequel on a eu des données intéressantes, plus par rapport à la durée, dans le fond, de l'infection. Donc, le temps que le patient met à se remettre de cette infection-là a été raccourci chez les patients qui étaient exposés au remdesivir. Donc, on parle d'un autre médicament, d'un médicament antiviral qui a été utilisé là, dans l'Ebola, donc qui avait eu quand même des données intéressantes. C'est en fait le premier médicament là, qui a été autorisé pour la COVID, donc avec cette indication-là. C'est un médicament qui était disponible, là, même au tout début de la pandémie. Il y a sans doute quelques cas au Québec qui ont pu l'avoir là, via le programme d'accès spécial. Donc, parmi les études publiées, il y avait les données sur l'usage compassionnel. Donc, Gilead a quand même publié toutes leurs données. Donc, c'était des études de cohorte observationnelle. Puis, il y avait des résultats intéressants, mais on n'avait toujours pas de groupe contrôle. Donc, ça rendait un petit peu l'interprétation des résultats plus difficile. Il y a eu une première étude randomisée qui a été menée à Wuhan, en Chine, qui avait démontré aucun bénéfice significatif par rapport au placebo. Fait que là, on commençait à avoir des données peut-être plus intéressantes. Ensuite de ça, il y a eu le rapport préliminaire du NIH, qui est le National Institute of Allergy and Infectious Disease, qui a été publié dans le New England en mai, qui a révélé à ce moment-là une durée d'infection qui était plus courte. Donc là, c'était probablement l'étude qui nous a donné le goût puis qui a fait en sorte que la compagnie a déposé une demande d'homologation à Santé Canada. Puis on avait quand même un signal intéressant. On n'avait rien sur la mortalité, mais on avait quand même des patients qui retrouvaient leur santé plus rapidement lorsqu'ils étaient sur ce traitement-là. Il y avait autour de 1 000 patients. Mais bon, toujours pas de bénéfice sur la mortalité. Fait que par la suite, il y a eu presque en même temps l'annonce de Guy Lehed aussi qui a publié des résultats d'une étude ouverte randomisée qui comparait le traitement de 5 ou 10 jours avec le remdesivir chez des patients qui étaient hospitalisés avec une pneumonie sévère. Donc, il n'y avait pas de différence dans les issues évaluées au niveau de l'amélioration clinique de l'efficacité de la durée de séjour, mais il y avait quand même des évidences intéressantes qui faisaient en sorte que le traitement court de 5 jours était tout aussi intéressant que le traitement de 10 jours. Donc, il n'y avait pas de différence dans la durée en termes d'amélioration, finalement, là, de, comme je vous disais, clinique, durée de séjour et tout ça. Finalement, les évidences d'efficacité restent minces, mais on a besoin de poursuivre puis même de privilégier là, les études randomisées avec le remdesivir. On a encore une étude intéressante qui est l'étude Solidarity, là, le bras canadien qui s'appelle CAPCO, qui a le protocole actuellement en cours au Québec, c'est le remdesivir ou le traitement standard dans le cadre de cette étude-là, puisque les autres bras sont terminés. Donc, il reste qu'on doit privilégier l'utilisation du remdesivir dans le cadre d'un projet de recherche comme celui-là, parce que les évidences que nous avons sont quand même relativement minces, bien que Santé Canada a jugé que, compte tenu que l'Union européenne, les États-Unis, la FDA, tout le monde avait homologué le médicament avec l'indication de traiter une infection à coronavirus, en fait celle du SARS-CoV-2 que nous avons en 2019-2020, ben, Santé Canada a emboîté le pas et a offert aussi là, la possibilité d'avoir ce médicament-là de disponible pour traiter ces infections-là.
Fait que si on le voit dans nos établissements, on va le voir pour une durée de 5 jours.
Bien, ça serait plus justifié de le voir pour une durée de 5 jours, effectivement. Les projets comme CAPCO, qui l'avaient pour 10 jours, ont amendé leur protocole pour maintenant le mettre sur 5 jours, parce qu'il n'y a pas de différence dans les issues qui ont été évaluées entre les deux durées de traitement.
Puis, tu sais, tu nous parlais d'études sur la sécurité. Là, il y a quand même eu des papiers publiés sur le remdesivir et l'insuffisance hépatique. T'en penses quoi?
C'est sûr qu'il reste que ça demeure quelque chose à monitorer. Mais il n'y a rien qui, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien qui semble être ressorti de ces derniers papiers-là, là, c'est-à-dire celle de la compagnie, l'étude randomisée. Donc, il reste que c'est quelque chose à monitorer, c'est ce que la monographie nous dit. Donc, j'appliquerais plus un monitorage de pharmacien que basé sur ce qu'on a obtenu, là, dans le fond, dicté par ce que nous avons obtenu dans les études.
Fait que là, je comprends, l'ADEX, ça demande mon premier choix, l'adexamétasone 6 ouais. mg. Puis après ça, remdesivir, données discutables, mais bon, si on l'essaye, probablement 5 jours. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu, tu sais, de l'enthousiasme qu'on a eu pour l'hydroxychloroquine en mars-avril, puis là, de sa chute, mon Dieu, spectaculaire. On n'entend plus parler.
C'est
ça. Veux-tu juste nous revenir, pour ceux qui ne sont pas à jour, là, pourquoi ça n'a pas marché finalement?
Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il s'est passé pas mal d'affaires. Même moi, j'ai eu la misère à suivre, mais je vais essayer de vous faire un petit peu l'historique de l'hydroxychloroquine. Alors, ce qui s'est passé, on se rappelle au tout début, l'engouement, effectivement, au début de la pandémie, c'était basé surtout sur des données in vitro, sur la diminution de la réplication virale de divers coronavirus qu'on a eu dans le passé, dont le SARS-CoV-1 dans les années 2002-2003. On voyait poindre une possible efficacité sur le nouveau coronavirus que nous avions, qui est le SARS-CoV-2. Donc, il y avait aussi des données chinoises qui, toujours in vitro, un petit peu in vivo, qui sont venues un peu appuyer cet intérêt-là. Donc là, c'était le tout début de la pandémie. L'enthousiasme est arrivé. Par la suite, il y a eu plein d'études observationnelles avec le coloré Didier Raoud, le français, avec des résultats plutôt discordants, une rigueur plutôt douteuse, pas de groupe contrôle, des biais de sélection. Il en donnait à qui ça y tentait, il en donnait pas à d'autres. Fait que là, ça l'a choqué beaucoup, beaucoup de scientifiques de la communauté d'infectiologie, bien que c'est un membre de cette communauté-là. Donc ça l'a un peu mis de l'huile sur le feu, ça a amené des réactions, mais en même temps, les résultats n'étaient toujours pas là. Lui était capable de convaincre que ses résultats étaient positifs, mais dans l'analyse de ceux-ci, ça ne l'était pas. Fait que les scientifiques un peu de pur et dur, eux autres n'y croyaient pas. Ça prenait des Donald Trump pour y croire, puis pour justement, avec tous ces engouements populaires, étaient capables de convaincre bien du monde d'en mettre dans leur thé puis dans leur café. Mais bref, c'était pas, en termes de science, là, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Par la suite, ce qui a été le plus scandaleux, puisque vraiment probablement cloué le clou dans le cercueil de l'hydroxychloroquine, ça a été le scandale de la grosse étude qui a été publiée dans l'ANSET à la fin du mois de mai. C'était une grosse étude d'analyse de registres. En fait, c'était la compagnie Surgisphere, c'est ça, qui avait réussi à colliger chez plus de 96 000 patients dans 670 hôpitaux et plus sur 6 continents.
C'est quand même une grosse affaire.
C'est une grosse affaire. Il avait colligé les données du devenir des patients exposés à l'hydroxychloroquine et il avait obtenu des données quand même assez percutantes parce que ça augmentait la mortalité, puis surtout de causes cardiovasculaires, donc des arythmies ventriculaires que les patients faisaient. Ça l'a évidemment fait couler beaucoup d'encre dans la population scientifique et journalistique. Là, les gens ont dit « Hey, mon Dieu, ça tue le monde finalement! » Il y avait les précautions que les études de Raoul puis que les scientifiques qui n'étaient pas d'accord disaient « On vous l'avait dit, c'est pas de l'homéopathie, puis c'est pas quelque chose qu'il faut donner puis mettre dans la soupe de tout le monde. » Mais par contre, ce qui est arrivé quand ce scandale-là est arrivé, c'est qu'il y avait un des trois auteurs qui était propriétaire ou qui était un des directeurs importants de la compagnie Surgisphere. Puis les trois autres ont émis des doutes sur la rigueur des résultats, émis des doutes sur les chiffres, trouvaient que c'était suspicieux un peu. C'était très rapide la vitesse à laquelle Surgisphere a été capable de fournir des données pour autant de patients de partout dans le monde. Il y avait des écarts épouvantables. Le nombre de décès en Australie dépassait le nombre de décès dans le pays. Alors, le nombre de décès de la COVID. Après ça, la façon de donner l'hydroxychloroquine aux États-Unis allait à l'encontre des recommandations de la FDA, donc de la monographie du produit, même pour l'indication là, de l'infection. Donc, ça tenait pas la route. Alors, il y a trois des auteurs et la revue Lancet qui a dit, bon, on veut revoir les résultats, on va former un comité indépendant, puis on va se replonger dans les résultats, on va refaire des analyses. Ce que la compagnie a refusé de faire. Alors, ils ont dit, non, nous autres, on ne vous les fournit pas, les résultats, on est sûr de notre affaire, on a des ententes de confidentialité avec les établissements qui nous ont donné accès, alors non, vous ne les aurez pas. Donc, ça l'a choqué, évidemment. Le Lancet a retiré son papier. Les deux autres auteurs qui collaboraient avec un des autres ont décidé de retirer leur nom également. Quand la publication est arrivée, les autres études qui travaillaient avec l'hydroxychloroquine, qui étaient importantes, ont aussi décidé de retirer leur bras hydroxychloroquine, disant, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça tue le monde. Mais là, finalement, avec la rétraction, ils ont dit, ben nous, on va remettre nos bras hydroxychloroquine puis on va faire nos propres analyses intérimaires. Ce qu'ils ont fait, donc Solidarité a repris son bras, a fait des analyses pour finalement dire, c'est futile, ça ne donne rien. Ils ont dit, parmi nos données, ça ne tue pas le monde, mais ça ne les sauve pas non plus. Recovery a fait la même chose. Ils ont annoncé mettre fin au recrutement des patients dans le groupe hydroxychloroquine. Faute de bénéfices, tout simplement, après l'analyse intérimaire de leurs résultats. Finalement, c'est terminé. L'hydroxychloroquine, on ne travaille plus avec ça. Il y a aussi l'étude PEP-RCT, une étude qui s'est tenue aussi là, dans le réseau CUSUM. Je pense qu'un des chercheurs était même co-investigateur dans ce projet-là, a été aussi cessé là, prématurément. C'était de la prophylaxie post-exposition. Donc, c'était des patients en contact avec des patients COVID positifs avec des critères particuliers, mais qui n'étaient pas hospitalisés. Soit qu'ils étaient COVID positifs ou ils étaient seulement là, en contact avec un cas confirmé. On se rappelle qu'eux recevaient des hautes doses d'hydroxychloroquine, là, 1400 mg la première journée, par la suite 600 mg pendant 4 jours. Donc, c'était des bonnes doses. Ça a été publié dans le New England aussi le 6 août dernier, fait que c'est quand même intéressant. Puis ça, ben, c'est clair, là, pas de différence dans l'efficacité, pas de différence dans la mortalité non plus. Donc, fini. Il reste quelques études en cours au Canada, notamment l'étude HEROES là, pour les travailleurs de la santé, les enfants. Mais personnellement, là, mes espoirs sont vains par rapport à l'hydroxychloroquine.
Bon, fait que je t'écoute, mais je comprends que c'était le meilleur et le pire de la recherche en temps de pandémie.
Oui, vraiment. On a eu à gérer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de publications, des rétractions. Moi, je n'avais jamais vu ça. Quand même intéressant. Une histoire à raconter dont on se souviendra probablement longtemps.
Probablement. Mais parlons un peu d'une autre controverse en termes d'autorisation. Là. La FDA américaine a autorisé l'utilisation du plasma convalescent. Je comprends que c'est peut-être suite à des pressions politiques du gouvernement américain actuel. Là. Je sais qu'on est pharmacien, là, mais qu'est-ce qu'on devrait penser de l'utilisation du plasma convalescent?
Écoute, tu l'as bien dit. Moi, je ne suis pas la spécialiste, mais ça m'intéresse parce que c'est un traitement quand même. Je pense que c'est une option prometteuse dans, dans le traitement de la COVID, le placement convalescent. On sait ce que c'est. Hein. C'est dans le fond des anticorps collectés de patients qui ont été infectés par le virus, qui sont par la suite là, réadministrés là, aux patients. Effectivement, la FDA a émis une autorisation d'utilisation, comme tu le dis, d'urgence. Là, puis là, ça a amené les journalistes à s'intéresser de plus en plus à ça. C'est vieux comme la Terre, ça, le placement convalescent. Ça existe depuis plus de 100 ans. Ça a été étudié dans différents autres types d'infections. Fait que je pense que les grands chercheurs sont confiants, mais en même temps, je pense que ça ne sera sans doute pas la panacée, mais ça peut nous donner des options, hein, du moins là, en ce qui a trait à son utilisation. Il y a des études en cours partout dans le monde. Mayo et Johns Hopkins aux États-Unis semblent être les leaders là, dans ces traitements-là. La FDA a beaucoup facilité aussi la mise en place d'études avec cette approche d'immunité passive. Les données à date sont basées sur aucune étude randomisée contrôlée, mais des signaux positifs quand même sont ressortis sans effet délétère, comme on a l'expérience d'utiliser cette pratique-là dans d'autres infections ou d'autres situations. Il semblerait que ça soit quand même sécuritaire, puis c'est pas là la préoccupation.
Je comprends que les bénéfices seraient potentiellement supérieurs aux risques en attendant de savoir si on a une efficacité.
Absolument, c'est ça. Puis il y a l'étude Concorde qui est toujours en cours au Canada, même au Québec. Je pense que dans votre coin, Montréal, tout ça, vous avez... je pense que c'est en cours. Chez nous, c'est pas tout à fait commencé, mais on a un investigateur dans notre établissement là, qui est impliqué. Donc, je pense que c'est une option intéressante. Ça sera à suivre. Je pense que pour l'instant, on n'a pas de données claires, mais il reste que c'est quelque chose qui est à suivre.
Il y a aussi plusieurs publications sur les anticorps monoclonaux qui auraient une action pour moduler certains médiateurs clés de l'inflammation. Là, je pense au tocilizumab ou au sarilumab. Est-ce qu'on a des résultats ou ces études sont encore en cours?
La majorité de ces études-là sont en cours. En fait, les anticorps monoclonaux, c'est des biothérapies ciblées là, qui agissent là, particulièrement contre l'interleukine 6. Donc oui, effectivement, tu m'as parlé du tocilizumab, du sarilumab, qui sont en fait des médicaments injectables, qui sont des médicaments d'exception sur la liste de la RAMQ utilisés dans polyarthrite rhumatoïde. Fait qu'on parle de médicaments homologués chez nous, connus, mais pas, évidemment pas avec l'indication là, de l'infection de la COVID. Donc, on a quelques études au Canada. L'étude COVACTA avec le tocilizumab, qui est une étude randomisée double insu avec placebo, qui est subventionnée par Hoffmann-Laroche. Puis on en a une autre par des chercheurs de l'Université de Calgary qui sont en cours. Je n'ai pas rien vu en termes de résultats. Là. Oui, sur les 1000 études, quand on fait un PubMed, il y a des petites choses qui peuvent ressortir, mais je n'ai rien là, à vous donner en termes de résultats. Le sarilumab, celui-là aussi, il y a une étude en cours qui est subventionnée par Sanofi. Je vous parle toujours d'études au Canada. Il y en a plein d'autres dans le monde. Fait que oui, ça reste que c'est quelque chose qui semble être intéressant. Les grandes études de l'OMS, là, comme Solidarité ou Recovery du côté européen, ont intégré plus les interférons qui présentent aussi un intérêt dans la COVID. L'interféron bêta-1-alpha qui fait partie des médicaments d'intérêt là, qu'on va voir. Solidarité a amendé sa version du protocole. Tantôt, je vous disais qu'actuellement, Solidarité en Amérique, le CATCO canadien, a remdesivir ou placebo dans la version actuelle sur laquelle on randomise des patients. La version amendée, la version 4.3 et 4.4, ont introduit là, l'interféron bêta-1-alpha dans les traitements. Donc, je pense qu'actuellement, la version 4.3 est en évaluation au comité d'éthique là, du CUSUM, qui est notre comité évaluateur au Québec. Donc, cette étude-là, Solidarité, en plus du remdesivir, on va avoir l'interféron qui va s'ajouter. C'est des options supplémentaires dont on aura besoin de plus de réponses. Puis, il y a l'interféron bêta-1 aussi, le Lavonex, qui est utilisé dans la sclérose en plaques, que j'ai vu aussi utilisé dans d'autres projets de recherche. Donc, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, là. Interférons, anticorps monoclonaux, tout ce qui est immunomodulation, à suivre.
Donc, c'est ça. Études en cours, puis on surveille. Ouais. Nathalie, je suis aussi curieuse parce que dans notre premier balado sur le coronavirus, le 25 mars avec Nancy Sheehan, elle parlait beaucoup des inhibiteurs de la protéase. Entre autres, le lopinavir, ritonavir, elle semblait dire que c'est des médicaments prometteurs parce qu'ils pouvaient agir sur la réplication virale in vitro. Puis là, 5 mois plus tard, il me semble que j'en entends pas parler du tout. Pourquoi?
En effet, hein, Ce qui est arrivé avec ces médicaments-là, en fait, c'est un petit peu comme l'hydroxychloroquine. Ils ont un peu fait partie des analyses intérimaires là, des grandes études. Je vous ai parlé de solidarité, je vous ai parlé de recovery. Ils avaient tous deux des bras Caletra, où l'opinavir est un navire, qui, au moment où ils ont fait les analyses intérimaires, ils ont réalisé que c'était futile. Il n'y avait aucun bénéfice à poursuivre les traitements. Donc, il y avait quand même plusieurs études. Là, je vous ai parlé de ces deux-là, parce que ce sont probablement les plus importantes. Mais il y avait plusieurs études randomisées, des cohortes rétrospectives qui ont rapporté là, vraiment aucune donnée positive sur les paramètres mesurés de mortalité, de durée d'hospitalisation et tout ça.
Un autre agent que Nancy Sheehan nous avait parlé, c'était la colchicine. Puis elle parlait qu'il y avait peut-être une étude en cours sur la colchicine à Montréal. Est-ce que ça dit quelque chose?
Oui, effectivement. Moi aussi, quand j'ai présenté la web conférence sur les études de la COVID, je vous ai parlé parce que je pense que c'est une étude dont on doit être fier. C'est un chercheur québécois, Dr Tardif de l'ICM, qui a en fait écrit l'étude, le projet Colcorona, qui se tient dans plein pays dans le monde. Puis le projet est toujours en cours. Ils ont eu même récemment, là, fin juin, une analyse intérimaire. Donc, leur DSMB, là, leur comité de surveillance, s'est réuni, a effectué une analyse des données intérimaires, sans doute positif ou en tout cas pas négatif parce qu'ils n'ont pas arrêté l'étude, puis pas non plus dangereux. Souvent, quand les études sont dangereuses ou très futiles ou donnent absolument rien, on arrête le projet pour futilité. Mais ce n'est pas le cas. Il reste une centaine de patients à recruter dans cette étude-là environ, sur les 6000 qui étaient prévus au départ. Puis on me dit que les résultats sont attendus là, d'ici la fin de l'été. Fait que c'est quand même intéressant. Ça, j'ai lu ça il y a quelques semaines, mais bon, disons que peut-être en cours d'automne. Ils ont même élargi le recrutement peut-être pour accélérer tout ça en Afrique, en Amérique du Sud, tout récemment. Donc, une étude très intéressante dont on a hâte d'avoir les résultats. On se rappelle que cette étude-là était chez des patients à domicile, donc pas des patients hospitalisés. COVID positif, on est chez nous, on est traité, on reçoit un appel de l'équipe de recherche de Colcorona pour nous demander si on a de l'intérêt à participer au projet. Donc, à suivre, puis hâte de voir les résultats.
Tout à fait. J'allais te demander s'il y avait d'autres études québécoises qu'on devrait surveiller, mais en fait, parle-nous donc un peu de l'étude que vous mettez en place à l'IJCPQ puis dans laquelle tu es un co-chercheur.
L'étude COSI, ça s'appelle comme ça. C'est une étude, en fait, qui émane de chercheurs de chez nous à l'IJCPQ. Donc, Dr David Marsolet, qui est un chercheur fondamental, qui détient là, une expérience solide, entre autres, dans tout ce qui a trait à l'immunomodulation, les atteintes pulmonaires, l'utilisation des immunomodulateurs dans les atteintes pulmonaires et tout ça. Puis, il y a eu, à un moment donné, l'idée d'écrire, parce qu'il était assez familier avec le fingolimod, qui est un médicament utilisé dans la sclérose en plaques. Puis, il y avait des signaux quand même très intéressants dans le rétablissement des infections virales chez ces animaux de laboratoire. Fait qu'il a eu l'idée d'écrire quelque chose dans la COVID. Alors, il me téléphone à un moment donné, puis il me parle de son histoire, puis bref, il me dit, écoute, je le mets en communication avec des gens de la compagnie qui commercialise le médicament avec lequel il voulait travailler, mais qui n'est pas commercialisé chez nous, qui est de l'Ozanimod. Et il a joint aussi Dr François Lelouch, qui est un intensiviste chez nous, chercheur. Donc, ces gens-là, ce sont Dr Lelouch, Dr Marsolet et moi. Ils m'ont introduit là-dedans. Ils ont dit « t'embarques dans notre galère, on écrit un protocole dans la COVID ». Et tout ça a déboulé à vitesse de l'éclair. Fait qu'on va recruter à peu près 40 sujets, 20 dans le traitement standard, 20 sous Ozanimod pour un traitement de 14 jours jusqu'au congé de l'hôpital. C'est une molécule Peros, pas commercialisée, comme je vous disais, au Canada, qui est commercialisé aux États-Unis depuis le 26 mars seulement dans la sclérose en plaques. On va sans doute recruter d'autres centres parce que pour l'instant, on n'est pas un grand centre recruteur chez nous à l'IJCPQ. On s'attend que la deuxième vague va nous aider. S'il n'y en a pas, ben écoute, ça sera une expérience enrichissante pour moi et pour ces chercheurs-là, puis ça sera tant mieux pour la population. Si on a besoin de cette drogue-là, ben nous autres, on pense, on y croit vraiment que c'est un médicament qui pourrait là, en fait, empêcher finalement que les patients basculent dans la tempête inflammatoire là, qui est vue dans la pneumonie et la COVID. Donc, un médicament qui va être intéressant sans doute chez les patients oxygéno-traités, c'est nos critères de base, des patients qui sont sur le bord d'être intubés ou d'avoir besoin d'une assistance ventilatoire pour respirer. Fait que, à suivre, puis je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas, du moins qui peut susciter encore une fois de l'espoir dans un champ thérapeutique un peu nouveau là, pour la COVID.
Mais je te félicite, Nathalie, de t'impliquer comme ça dans la recherche. Hein, les pharmaciens on s'implique pas traditionnellement en recherche. En tout cas, on voudrait t'impliquer davantage. Fait que j'espère que tu vas en inspirer d'autres puis que tu vas montrer l'exemple que, hey, oui, c'est possible. Là, on a tout le bagage pour pouvoir le faire. Là. Fait que je nous souhaite vraiment pas une deuxième vague. Là. Fait que
Non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas grave si on l'utilise pas. Comme je vous dis, ça sera une expérience pour moi puis ça sera une expérience aussi pour les gens. Puis ils étaient tellement convaincus qu'ils avaient besoin d'un pharmacien parce que c'est un médicament, parce qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires potentiels, il y avait une clientèle cible qu'il fallait éviter, il y avait plein d'affaires. Puis effectivement, j'ai réalisé que, tu sais, des fois, on est très humble, on pense qu'on n'a pas d'affaires là, j'ai pas de PhD, j'ai pas fait des études comme chercheur, j'ai fait des petites choses. Puis il faut être conscient qu'on a une certaine valeur. Puis oui, on peut apporter beaucoup, beaucoup à cette communauté de recherche-là, puis aux patients aussi qui vont bénéficier de notre expertise là, éventuellement.
J'en suis convaincue également. Écoute, je te ramène quand même à notre traitement en fin de balado comme ça. Là. En ce moment, il y a une espèce de course au vaccin. Là. Qu'est-ce qu'on devrait en penser là, de ce qui se passe au niveau là, de la vaccination?
C'est sûr que là aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'on a 6 candidats vaccins qui sont en phase 3. Fait qu'en phase 3, là, on commence à penser, c'est des études cliniques, c'est du vrai monde, puis on va avoir des vraies données. Fait que 6 candidats vaccins, c'est quand même très intéressant. Puis ça, c'est l'étape avant l'homologation, la phase 3. Il y a quand même 140 candidats vaccins dans le monde qui sont actuellement en cours d'évaluation. Fait qu'on a juste le goût de dire, bien, il va sans doute avoir quelque chose qui va ressortir de là. Le Brésil a été le premier pays à lancer des tests de phase 3 d'un vaccin chinois qui s'appelait le Coronavac, je pense quelque chose comme ça. Les médecins brésiliens, il y en avait un entre autres qui s'est dit, ben moi, je vais être le premier cobaye. Puis elle nous a même dit, cette médecin-là, à part les maux de tête, des sueurs froides dans le premier 24 heures, qu'elle avait très, très bien toléré. Bon, ça, c'est le petit côté pratico-pratique que nous avons. Mais pour l'instant, il y a le vaccin d'Oxford, là, qui est le vaccin d'AstraZeneca, qui, lui, a été en production avant même son homologation. Eux autres, ils ont dit, on en fait. Au pire, si on n'a pas l'homologation pour une raison X, ben on va les jeter. Mais au moins, si on a l'homologation, nous allons être prêts. Fait que, tu sais, on voit que ça bouge énormément. Les résultats des essais de phase 2 semblaient quand même attendus en septembre. Fait que c'est sûr que, tu sais, on va rapidement aller vers la phase 3. La disponibilité, si les études sont concluantes, je ne suis pas bien placée pour vous le dire, mais je pense qu'on lit parfois fin 2020, début 2021. Ça, c'est ce que les Britanniques nous disent, que eux, en tout cas, l'auraient. On sait que le Canada a conclu 2 ententes pour acheter des millions de doses de vaccins là, expérimentaux à Pfizer et à une autre société qui s'appelle Moderna. Je pense que le problème actuellement que je perçois, là, pour avoir lu ça un peu en superficie, plutôt superficiellement, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie mondiale pour la distribution des vaccins, du moins pas pour l'instant. Fait que moi, ça me fait peur un peu, là, le chaos, si le vaccin s'avère intéressant, qui va l'avoir, comment. Nos pharmaciens d'officine vont peut-être pouvoir vacciner plus vite qu'on pense, puis ça prendra sans doute pas 5 à 10 ans pour en avoir un, mais combien de temps? Je n'aurais pas vous dire.
Ça prend une boule de cristal.
Vraiment, ce que je n'ai pas.
Écoute, merci Nathalie d'avoir accepté de nous faire cette mise à jour sur le coronavirus. Pas facile quand même, il y a beaucoup, beaucoup de données. Il faut se lancer. Alors, tu as réussi avec brio, je te remercie.
Merci, merci infiniment. Thank you.
CKUT's 2020 funding drive has been postponed indefinitely, but we are still accepting donations to help us sustain the station's operations while we remain closed due to COVID-19. Our wide network of volunteers provides an essential service to many different communities in Montreal, and the isolation of the past few months has highlighted how important independent news, arts and culture, and music programming is for Montreal's underrepresented communities. If you are in a position to give during this time, visit ckut.ca and click on the green Donate button to make a contribution, or contact funding@ckut.ca if you have any questions. Thank you for your continued support. Love, CKUT.
Your help. You're there. When your kids say something's wrong, you're there. When your friends have a rough day, you're there. Be there for yourself the way you're there for others, as it's normal for these uncertain times to bring out negative emotions or anxiety. If you're finding it difficult to carry out daily tasks, there are solutions. Visit quebec.ca/gettingbetter or call Info Social 811. A message from the gouvernement du Québec.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Now Carob Patties is on a fast break with Veggie Patty leading the charge. The pass is down deep to Goat Patty. Goat Patty passes baseline to Beef Patty. Beef Patty shoots from downtown at the buzzer. And bingo! It's in! It's in! Carob Patties wins the game and is now the world champions! The number one in Montreal. Come on down to 9550 Jean Milot in LaSalle for the best patties, roadies, jerk chicken, and more. Or call us at 438-387-4004. Carob Patties, the champions of Montreal.